J'ai quitté le Japon pour rechercher la justice. Et la seule chose que je demande maintenant, c'est d'être dans des conditions dans lesquelles je peux m'exprimer, je peux me défendre pour établir ma réputation et pour passer à la contre-attaque, ce qui n'était pas possible au Japon.
Bonsoir, c'est l'évasion du siècle, une extraordinaire opération digne des services secrets, un scénario qui aurait sa place dans un James Bond. C'est cette évasion, celle de l'ancien PDG de Renault-Nissan, Carlos Ghosn, que je vais vous raconter ce soir. Évasion qui est bien un crime aux yeux de la justice japonaise, qui avait prévu de tenir au moins 2 procès contre Carlos Ghosn avant que ce dernier ne se fasse la belle, ou plutôt la malle dans le cas présent, dans la soirée du 29 décembre 2019. Le Japon, abasourdi par cette évasion, se retrouve aujourd'hui dans l'impossibilité d'atteindre l'ex-PDG réfugié au Liban. Affaire qui est aussi un crime aux États-Unis. Ce pays vient d'accepter l'extradition vers Tokyo de 2 de ses ressortissants, parmi lesquels un homme, Michael Taylor, qui apparaît comme l'organisateur, l'architecte, le cerveau de cette opération. Il a donné beaucoup d'informations au FBI américain, des détails confidentiels et inédits sur les dessous, le montage et bien sûr le coût de cette opération. Des barbouzes, des amis dévoués, une épouse discrète, une fille qui joue les émissaires, des chambres d'hôtel et un téléphone secret. Avec nos invités, nous allons tirer le fil de cette évasion presque parfaite, car l'affaire, nous allons le voir, est effectivement très loin d'être terminée pour l'ancien grand patron de Renault-Nissan.
20h, 21h, Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime.
Et ce soir donc dans l'heure du crime, Carlos Ghosn, le récit de l'évasion du siècle. Hiver 2019, tout est désormais prêt. L'ancien PDG vit ses dernières heures à Tokyo, ville dont il est le prisonnier depuis un peu plus d'un an. Ce dimanche 29 décembre 2019 au matin, Carlos Ghosn se réveille dans son appartement de Minato, un quartier résidentiel de Tokyo où se trouve notamment l'ambassade de France, avec le sentiment que cette journée est celle du quitte ou double. Rester au Japon, où il croupit depuis son arrestation le 19 novembre 2018, ou réussir une évasion préparée depuis des mois et retrouver la liberté. Seule une infime poignée de proches, la famille est informée de ce qui se trame. Son épouse Carole et ses enfants, sa fille Maya, sur la liste des visiteurs autorisés à rencontrer celui qui aurait détourné les millions de Nissan, et d'ailleurs ce jour-là chez son père. Carlos Ghosn savait que l'échéance approchait, mais il a appris seulement la veille, samedi 28 décembre, que l'opération échappée belle était pour aujourd'hui. En milieu de journée, ce samedi, il s'est rendu dans un hôtel proche de sa résidence. Son contrôle judiciaire lui permet ce genre de déplacement. Dans la plus grande discrétion, il a pris l'ascenseur du Grand Hyatt pour se rendre jusqu'au 9e étage, chambre 933. Il a retrouvé un certain Peter, l'Américain Peter Taylor, 27 ans, fils de celui qui organise depuis des mois l'évasion, Michael Taylor. Peter avait déjà rencontré Ghosn au mois de juillet, les deux hommes se connaissent. Ce coup-ci, il remet au PDG la carte magnétique d'accès à cette chambre 933 avec consigne de s'y rendre le lendemain en début d'après-midi. Carlos Ghosn joue avec le feu, mais il n'a pas hésité à se lancer dans cette opération à haut risque. Il craint trop de retourner pour de longues années peut-être en prison. Le procureur de Tokyo n'est pas décidé à le lâcher. Il a déjà gratifié de 4 mises en examen pour corruption, enrichissement personnel, détournement de fonds, au détriment de la firme Nissan. Le 19 novembre 2018, Ghosn avait été arrêté à sa descente d'avion, le jet privé de la société Nissan, sur l'aéroport de Tokyo Haneda. Il s'était aussitôt retrouvé dans les griffes de la justice japonaise, une corde autour de la taille, comme une laisse, des menottes, des claquettes en plastique aux pieds. Ghosn ne se doutait pas que l'enquête secrète était conduite sur lui depuis plus de 6 mois par le procureur de Tokyo. Le soir même de son arrestation, il se retrouvait ainsi seul dans une cellule au 10e étage de la prison de Kosuge. 6 mètres carrés 46 exactement, une vie carcérale spartiate. L'isolement, pas de visite au début. Le grand patron va passer 129 jours à Kosuge, sans aucun doute le pire moment de sa vie, avant de bénéficier d'un régime moins contraignant et de se retrouver, moyennant une importante caution, en résidence surveillée. Surtout, ne jamais retourner en prison, il ne l'aurait pas supporté. « J'avais le choix entre mourir au Japon ou m'enfuir », déclara-t-il une fois réfugié au Liban. La prison de Kosuge, donc, puis effectivement cette résidence surveillée de laquelle Carlos Ghosn va s'évader pour un incroyable périple qui va durer presque 24 heures, destination le Liban, Beyrouth, la liberté. Il est 14h30 lorsque Carlos Ghosn quitte son appartement dans l'arrondissement de Minato. Le temps est frais ce dimanche, l'ex-PDG est vêtu d'un long manteau noir, il porte un bonnet et un masque chirurgical. Pas de Covid à cette époque, mais cet accessoire est depuis longtemps une chose courante au Japon. Sa sortie n'attire pas l'attention, elle est filmée par les caméras de vidéosurveillance du procureur qui tournent en permanence, mais aucune retransmission en direct, ces images ne seront collectés que le lendemain. Pas non plus de surveillance spéciale devant l'immeuble. Les avocats de Ghosn ont obtenu que les détectives privés qui campaient devant la résidence, des hommes payés par Nissan, ne soient plus autorisés à épier leurs clients. La voie est libre pour Ghosn qui marche tranquillement, sans aucun bagage, pendant environ 800 mètres. Direction, comme prévu, la chambre 933 de l'hôtel Grand Hyatt, louée au nom de Peter Taylor. Personne dans la chambre, Carlos Ghosn y trouve de nouveaux habits et se change. Une heure plus tard, deux hommes qu'il ne connaît pas le rejoignent. L'Américain Michael Taylor, le père de Peter, et son plus fidèle adjoint, le Libanais Georges-Antoine Zayek. Peu après 16h, Michael Taylor, Georges-Antoine Zayek et Carlos Ghosn sortent de l'hôtel. Deux heures auparavant, la fille du PDG, Maya, a remis deux valises à Peter Taylor des affaires de son père. Celui-ci a pris un vol pour la Chine. Maya s'est envolée, elle, pour Beyrouth. Le trio embarque dans un taxi direction la gare de Shinagawa. Ils embarquent à bord d'un Shinkansen, le TGV japonais, à destination de la ville d'Osaka, au sud du pays. Voyage sans encombre pour les trois hommes. Personne n'a reconnu sous son masque Carlos Ghosn, visage qui a pourtant fait la une des journaux japonais depuis son arrestation. En début de soirée, le trio est à Osaka, pénètre dans un hôtel proche de l'aéroport, celui de Kansai. Il est 20h14, tout le monde se retrouve dans la chambre 4609 du Stargate Hotel. Il y a dans la pièce deux mâles noirs, une très grande, l'autre plus petite. Taylor et Zayek se sont présentés comme des musiciens qui allaient jouer dans un concert. La grosse mâle est débarrassée de son contenu, placée dans la plus petite. Carlos Ghosn se glisse dans ce coffre capitonné, les jambes repliées. On contrôle pour savoir s'il respire bien. À 21h47, la vidéosurveillance de l'hôtel filme la sortie des mâles. Deux hommes sur les images, mais pas de Carlos Ghosn. Quelques minutes plus tard, Taylor et Zayek sont dans le hall VIP de l'aéroport de Kansai. À cette heure avancée de la soirée, l'endroit est désert, le trafic des avions d'affaires réduit à son strict minimum. Les repérages dans les mois précédents ont permis d'établir que les contrôles des voyages d'affaires sont ici assez souples pour tous ceux qui quittent le Japon. Des mâles aussi imposantes ne passent pas dans les scanners, elles ne vont pas être contrôlées, pas plus d'ailleurs que les sacs à dos des deux hommes. Peu avant 22h30, la mâle enfermant l'ex-PDG est embarquée à bord d'un jet, un Bombardier Global Express immatriculé TC-TSR. La mâle a été spécialement fabriquée pour pouvoir entrer sans encombre dans l'avion. Elle ne s'ouvrira que dans une heure ou deux. Carlos Ghosn va réussir son évasion et pouvoir se poser sans encombre à Beyrouth, une ville où l'attend toute sa famille et ses amis. Opération menée de main de maître, fruit de très longs mois de préparation. Après avoir décollé à 23h10 de l'aéroport de Kansai, le jet privé a pris la direction de la Turquie. Le plan de vol comprend le survol de la Chine et de l'URSS, mais évite soigneusement tout pays qui a un traité d'extradition avec le Japon, la Corée du Sud par exemple. Les deux passagers de l'avion privé, Michael Taylor et Georges-Antoine Zayek, ont fait savoir à l'équipage qu'ils ne souhaitaient pas être dérangés pendant le vol. L'espace passager a donc été privatisé, une hôtesse apporte deux plateaux repas puis referme la porte derrière elle. C'est le moment où Carlos Ghosn peut sortir de sa malle et dormir un peu sous la surveillance de Michael Taylor. L'avion se pose à 5h12 du matin, lundi 30 décembre, sur la piste de l'aéroport Atatürk d'Istanbul. Ici aussi, les contrôles sont moins stricts, le trafic moins intense depuis l'ouverture récente d'un autre aéroport. Pluie battante, Carlos Ghosn descend en catimini de la passerelle, s'engouffre dans une voiture, 40 mètres à peine, jusqu'à un jet prêt à décoller. Taylor et Zayek, eux, filent comme si de rien n'était. Vers les contrôles de la douane, l'ex-PDG va atterrir dans moins de 2 heures à Beyrouth, avec un passeport français et une carte d'identité libanaise. Entre 4 et 6 mois de préparation ont été nécessaires pour monter cette extravagante opération d'évasion. Michael Taylor, chargé d'en assurer les moindres détails, a tout d'abord été contacté par un homme d'affaires libanais, un certain Ali, ami de la famille Ghosn. L'Américain est très connu dans le milieu de la sécurité. Il a notamment dirigé l'American International Security Corporation, une société spécialisée dans les missions à haut risque. Taylor se laisse convaincre. Il est alors mis en contact avec Carole, l'épouse de l'ex-PDG, interdite de visite par le procureur japonais, mais détentrice de précieuses informations sur les conditions de vie de son mari, le dispositif de surveillance, ses rendez-vous, ses horaires, son planning pour les mois à venir. Taylor et Zayek, ex-militaire libanais, vont effectuer de nombreux repérages, des voyages dans la région des Amirats, en Turquie. Ils envisagent un moment une évasion par bateau, les eaux internationales, puis la Thaïlande où le client pourrait embarquer dans un jet. Mais c'est finalement la voie aérienne qui est choisie. Par souci de discrétion, c'est le fils de Michael Taylor qui va se rendre à 4 reprises au Japon. Il y rencontre Carlos Ghosn une première fois dans un restaurant, puis assurera l'intendance, les réservations d'hôtels dans la capitale japonaise. Personne ne doit voir Carlos Ghosn lors de son escapade. Michael Taylor a l'idée de l'enfermer dans une grande boîte pouvant accueillir l'équivalent du poids de l'ex-PDG, 74 kilos en matériel audio. Une menuiserie de Beyrouth est chargée de dessiner cette malle devant abriter du matériel sensible, doté de coins renforcés par du métal et pourvu de petites grilles d'aération. C'est encore Taylor qui fait passer peu de temps avant l'évasion un téléphone portable à Carlos Ghosn pour qu'il suive à la lettre ses dernières directives. Regardé comme un innocent peut-être, mais à peine a-t-il posé le pied au Liban que, évidemment, l'évasion fait le tour du monde. Le Japon se réveille groggy. Comment son plus célèbre prisonnier a-t-il pu s'enfuir ? Tokyo va alors partir en croisade judiciaire, tout faire pour récupérer Carlos Ghosn. C'est un camouflé pour le procureur de Tokyo qui pensait pouvoir renvoyer l'ex-PDG de Renault Nissan derrière les barreaux pour sans doute plusieurs années. L'un des avocats japonais de Carlos Ghosn, Takashi Takano, estime que cette fuite est impardonnable, mais qu'il la comprend. Le détenu aurait subi trop de vexations, d'interdictions de la part de la justice japonaise, justice qui l'aurait condamné avant même de l'avoir jugé. Carlos Ghosn s'est ainsi retrouvé à Kosuge avec pour seule perspective son procès. Son attitude n'a pas favorisé la souplesse du procureur. L'ancien patron n'a formulé aucun aveu, n'a signé aucune reconnaissance de culpabilité, a nié les faits qui lui sont reprochés. Des détournements de fonds massifs à des fins qui seraient personnelles et qui auraient grevé la comptabilité de Nissan. Il n'y avait aucun signe que j'allais être traité de manière juste au Japon ou d'avoir une meilleure vie pendant 4 à 5 ans. Ils m'ont traité comme un dictateur froid et avide d'argent, déclare Carlos Ghosn à Beyrouth lors d'une conférence de presse suivie par les médias du monde entier. La justice japonaise, abasourdie, saisit aussitôt Interpol afin que soit diffusée une notice rouge demandant l'arrestation où qu'il puisse se trouver dans le monde de Carlos Ghosn. La police libanaise est évidemment concernée par cette alerte, mais ce pays ne donne aucune suite à ce message. Pas plus qu'il n'envisage d'accéder à la demande d'extradition demandée par le Japon. Il n'existe pas d'accord de ce genre entre les deux pays, qui plus est. Le Liban n'extrade pas ses ressortissants, a fortiori quand il s'agit d'une personnalité qui a les faveurs du pouvoir. Le président libanais, Michel Aoun, a reçu en personne l'ancien PDG de Renault Nissan. L'enquête diligentée à Tokyo pointe vite du doigt certains acteurs qui se trouveraient derrière cette opération d'exfiltration. La police japonaise dispose assez rapidement des noms des Américains Michael et Peter Taylor, ainsi que du Libanais Henri-Georges Zayek, les deux premiers accusés d'avoir enfreint les règles de l'immigration et protégé un criminel en fuite, sont arrêtés aux États-Unis seulement 5 mois après l'opération et placés dans un centre correctionnel avant qu'un juge américain ne se prononce sur leur sort. Le troisième homme, le Libanais Zayek, se trouve lui à Beyrouth où il est comme Carlos Ghosn hors d'atteinte. À défaut de mettre la main sur Carlos Ghosn, la justice japonaise va tout faire pour identifier et faire arrêter les hommes ayant participé à cette opération. Une équipe qui a ridiculisé un pays tout entier et le procureur qui voulait faire condamner l'ex-PDG. Le samedi 13 février 2021, après 9 mois de procédure et de débats acharnés, la Cour suprême des États-Unis a levé le dernier obstacle à l'extradition des Taylor, père et fils, Michael et Peter, soupçonnés d'avoir joué un rôle central dans l'évasion. Une juge fédérale, Indira Talwani, avait estimé que la requête japonaise était justifiée. Les avocats des deux Américains avaient tenté de démontrer que si les Taylor étaient emprisonnés au Japon, ils risquaient d'être soumis à des tortures, à des humiliations. Arguments non retenus. Les Taylor ont tout d'abord démenti avoir été payés pour leur travail. Ils auraient toutefois reçu la somme de 1,3 million de dollars pour leurs bons et loyaux services. Les deux hommes avaient été placés dans un centre correctionnel pour éviter tout risque de fuite. Peter Taylor avait effectivement été arrêté à Boston alors qu'il essayait de s'envoler pour le Liban. Les Taylor et leur dernier secret ne vont donc pas échapper à l'extradition imminente et à un séjour dans la prison de Kosuge, celle où se trouvaient leurs clients. Ils risquent jusqu'à 4 ans de détention, peut-être davantage. En Turquie, 7 personnes impliquées dans le transfert de Carlos Ghosn à l'aéroport Atatürk ont également comparu en correctionnel à Istanbul, procès qui doit reprendre mercredi 24 février. Depuis sa conférence de presse et quelques sorties médiatiques, Carlos Ghosn a choisi de rester discret. Il lui est impossible de sortir du Liban sous peine d'être aussitôt arrêté. Une enquête est également ouverte en France. Il était question que 5 magistrats aillent l'entendre à Beyrouth sur des faits de corruption, abus de biens sociaux et trafic d'influence, ainsi que sur les dépenses de Renault-Nissan. L'ex-PDG avait notamment été épinglé pour 2 soirées fastueuses organisées au château de Versailles 2014-2016. À une époque où il était l'un des patrons les plus puissants et les plus craints de la planète.